Chapitre 31. Jouer pour son dîner. Rand plissa le front pour mieux voir la colonne de poussière qui se dressait devant lui, trois ou quatre tournants plus loin. Matt se dirigeait déjà vers la haie sauvage qui poussait d'un côté de la route. À l'abri des branches couvertes de feuilles éternelles, les deux jeunes gens seraient aussi bien cachés que derrière un mur de pierre, à condition de trouver un moyen de passer de l'autre côté. En face, il ne poussait que des buissons, et l'hiver les avait dénudés jusqu'au dernier. Au-delà, il fallait, pour atteindre la forêt, traverser un champ de 500 pas de largeur au minimum. Appartenant sans doute à une ferme abandonnée depuis peu, ce terrain découvert avait tout d'un champ de tir pour d'éventuels chasseurs. Rand tenta d'évaluer la vitesse de la colonne et celle du vent. Des bourrasques soudaines soulevèrent un nuage de poussière qui obscurcit tout. Battant des paupières, Rand remit bien en place le foulard noir qui lui couvrait le nez et la bouche. De plus en plus sale, la laine lui irritait la peau, mais cette protection l'empêchait d'inhaler autant de poussière que d'air. C'était le cadeau d'un fermier au long visage, tout ridé par l'inquiétude.
« Je ne sais pas ce que vous fuyez, »
avait-il dit.
« Et je veux continuer à l'ignorer. Ma famille, vous comprenez. »
Sans crier gare, l'homme avait sorti de sa poche deux longs foulards qu'il avait tendus au fugitif.
« Ce n'est pas grand-chose. Ils sont à mes fils, mais ils en ont d'autres. Vous ne m'avez jamais vu, d'accord ? Les temps sont difficiles. »
Rand tenait beaucoup à son foulard. Depuis qu'il avait quitté Pont-Blanc, la liste des gentillesses qu'on lui avait faites se révélait fort courte, et il y avait peu de chances qu'elle s'allonge beaucoup. Le foulard enroulé autour de sa tête, ne laissant voir que ses yeux, Matt longeait la haie en tentant d'écarter les branches verdoyantes. Rand posa la main sur le pommeau de son épée, mais il la laissa très vite retomber. Une fois déjà, se tailler un passage dans une haie avait failli les trahir. La colonne de poussière avançait vers eux depuis trop longtemps. Ça ne pouvait pas être le vent qui la soulevait. Au moins, il ne pleuvait pas. Même les pires averses ne parvenaient pas à transformer en boue la terre battue trop compacte, mais l'eau éliminait la poussière. Et c'était la seule alliée qui les prévenait, un peu avant qu'ils entendent approcher leur mystérieux poursuivant. Et parfois, c'était déjà trop tard.
« Par ici !»
appela doucement Matt. Il sembla traverser la haie comme s'il était un passe-muraille. Rand gagna l'endroit où son ami avait disparu. Par le passé, quelqu'un avait taillé un passage. La haie ayant repoussé, c'était impossible à voir à trois pas de distance, mais de près, on s'apercevait qu'il n'y avait qu'un fin rideau de végétation. Alors qu'il traversait à son tour, Rand entendit un roulement de sabots. Non, ce n'était pas le vent. S'accroupissant derrière l'ouverture un peu trop visible à son goût, Rand saisit la poignée de son épée tandis que les cavaliers passaient devant lui. 5, 6, 7 hommes en tout. Vêtus comme des villageois, mais les lances et les épées qu'ils trimbalaient indiquaient clairement qu'ils n'en étaient pas. De toute façon, deux d'entre eux portaient une cuirasse cloutée de fer et un casque rond. Des gardes du corps de marchands entre deux missions, peut-être bien. Peut-être bien. Quand l'un d'eux tourna la tête vers la haie alors qu'il passait devant l'ouverture, Rand commença à dégainer son épée. Comme un blaireau acculé par des chasseurs, Matt grogna sous son foulard et plissa bizarrement les yeux. La main droite glissée sous sa cape, il devait serrer le manche de la dague de Shadar Logoth. Un réflexe conditionné dès qu'il se sentait en danger. Était-ce pour se défendre ou pour protéger l'arme ornée d'un rubis ? Rand n'aurait su le dire, mais son ami, ces derniers temps, oubliait souvent qu'il avait un arc à l'épaule. Les cavaliers avançaient au trot, résolus à atteindre leur destination, mais sans hâte particulière. La poussière qu'ils soulevaient s'infiltrait dans la haie, se déposant sur les feuilles. Rand attendit que le bruit des sabots soit inaudible, puis il passa prudemment la tête par l'ouverture. La colonne de poussière était déjà loin, avançant dans la direction d'où il venait. À l'est, le ciel était dégagé. Le jeune homme sortit de sa cachette et regarda la colonne de poussière s'éloigner vers l'ouest. Ils ne nous poursuivaient pas, souffla-t-il, à demi convaincu. Matt émergea à son tour et regarda dans les deux directions.
Peut-être,
dit-il.
Ou peut-être pas.
Sans savoir ce que son ami voulait dire exactement, Rand acquiesça. Peut-être. Le voyage vers Kemlin n'avait pourtant pas commencé sous de si tristes augures. Une fois sorti de Pont Blanc, Rand avait passé une bonne partie de son temps à regarder par-dessus son épaule. Deux ou trois fois, il avait aperçu une silhouette qui l'incitait à retenir son souffle un instant. Un grand type mince qui marchait à longues enjambées, un homme aux cheveux blancs assis près du conducteur d'un chariot. Mais il s'était toujours agi de colporteur ou de fermier en route pour quelques places de marché. Tom Merrilline ne s'était pas montré, et l'espoir de le revoir diminuait au fil des jours. Sur la route, la fréquentation était impressionnante. Des chariots, des charrettes, des cavaliers, des piétons. Seuls ou en groupe, selon les cas. Si les caravanes de marchands et les colonnes de cavaliers ne provoquaient jamais de véritables embouteillages, il arrivait souvent qu'il n'y ait rien en vue sur toute une longue ligne droite, le trafic n'avait rien à voir avec celui de Deux Rivières, où deux voyageurs se croisaient chaque fois qu'ils tombaient une dent à une poule. L'essentiel des chariots, des cavaliers et des piétons se dirigeait vers l'est, comme Matt et Rand. De temps en temps, les deux jeunes gens parcouraient une courte distance dans le chariot d'un fermier local, mais le plus souvent, ils devaient se contenter de marcher. Par principe, ils évitaient tous les cavaliers. Dès qu'ils en apercevaient un, ils se cachaient et le regardaient passer. Aucun ne portait une cape noire, et de toute façon, un blafard ne se serait sûrement pas laissé repérer de loin. Mais pourquoi prendre des risques? Au début, il redoutait uniquement les demi-humains. Puis les choses avaient changé. Le premier village qu'ils traversèrent après Pont Blanc était une copie presque conforme de Champ des Mondes. Stupéfait, Rand ralentit le pas pour mieux voir. Les toits de chaume pointus, les solides maîtresses en tablier qui échangeaient des commérages par-dessus les clôtures, les enfants qui jouaient sur le terrain communal. Tout était identique. Enfin, presque tout. Par exemple, les femmes ne se tressaient pas les cheveux, les laissant cascader sur leurs épaules. Il y avait d'autres différences, le plus souvent minimes, mais globalement, on se serait cru à Champ des Mondes. Les vaches broutaient en plein village, les oies déambulaient fièrement dans les rues et les gamins, riant aux éclats, se roulaient dans la poussière qui remplaçait bien trop souvent les carrés de verdure. Quand Matt et Rand le dépassèrent, les gamins ne leur accordèrent même pas un regard. Une autre différence. Dans cette région, les étrangers n'avaient rien d'extraordinaire, et deux de plus ou de moins ne changeaient pas la face du monde. Même les chiens se contentaient de lever vaguement la tête, sans se donner la peine d'aboyer. Alors que le crépuscule tombait, des lumières s'allumant derrière toutes les fenêtres, Rand eut un brûlant accès de mal du pays.
Malgré les apparences, souffla une voix dans sa tête. « Ce n'est pas chez toi. Si tu entres dans une maison, Tam ne sera pas là pour t'y attendre. Et s'il y était, pourrais-tu le regarder en face? Car tu sais la vérité désormais, pas vrai? N'étaient quelques détails comme ta véritable origine et ton authentique identité? Tam ne délirait pas à cause de la fièvre. »
Rand baissa les épaules, tentant en vain de ne pas entendre le rire moqueur qui résonnait dans sa tête.
Tu peux t'arrêter ici si ça te chante. Quand on est de nulle part, n'importe quel endroit envoie un autre. Et de toute façon, le ténébreux t'a marqué au fer rouge.
Sentant que Matt le tirait par la manche, Rand se dégagea et continua à observer les maisons. S'il n'avait aucune intention de s'arrêter, il voulait graver ces images dans sa mémoire.
Un fidèle reflet de Champ des Mondes. Un paradis que tu ne reverras plus jamais, n'est-ce pas?
Les traits tendus, la peau étrangement pâle, surtout autour des yeux et de la bouche, Matt revint à la charge.
Allez, viens!
Il regarda autour de lui comme s'il redoutait une embuscade imminente.
On ne peut pas s'arrêter si tôt.
Rand pivota lentement sur lui-même, afin de voir tout le village, puis il soupira, résigné. Pont-Blanc n'était pas très loin derrière eux. Si le Myrdral avait pu y entrer sans être vu, rien ne l'empêcherait de fouiller de fond en comble la petite agglomération. Conscient que c'était la seule solution, Rand se laissa entraîner loin du havre de paix au si joli toit de chaume. Un peu après la tombée de la nuit, les deux amis trouvèrent un endroit où dormir, à l'ombre de buissons qui n'avaient pas encore perdu toutes leurs feuilles mortes. Après s'être rempli le ventre avec l'eau fraîche d'un petit cours d'eau tout proche, les deux garçons s'étendirent à même le sol et s'enveloppèrent dans leur cape. Un feu aurait pu les trahir, donc il valait mieux avoir froid. Hanté par trop de souvenirs, Rand se réveilla très souvent. Chaque fois, il entendit Matt marmonner dans son sommeil des plus agités. S'il ne fit pas de vrais cauchemars, Rand dormit très mal.
« Tu ne reverras jamais ton foyer. »
Ce ne fut pas la seule nuit que les deux jeunes gens passèrent ainsi, seuls leurs capes les protégeant du vent et parfois d'une pluie glaciale qui pénétrait jusque dans la moelle de leurs os. Et ce ne fut pas non plus le seul repas où ils durent se contenter d'eau fraîche. En faisant le fond de leur poche, ils avaient encore assez d'argent pour quelques dîners dans une auberge, mais certainement pas pour la chambre qui allait avec. Hors de deux rivières, tout coûtait très cher, et les prix augmentaient encore de ce côté-ci de la Rinelle. Leur fortune devait être conservée pour les cas d'urgence, décidèrent d'un commun accord les deux amis. Un après-midi, alors que leur ventre vide n'avait même plus l'énergie de crier famine, Rand mentionna la dague au pommeau rehaussé d'un rubis. Par une journée grisâtre, sans autre refuge possible pour la nuit que de maigres buissons, et avec l'arrivée de nuages noirs qui annonçaient au minimum un crachin nocturne glacial, vendre le trésor de Matt semblait une très bonne idée. Rand ne s'aperçut pas tout de suite que son ami s'était arrêté net. Il s'immobilisa aussi, ses orteils heurtant rudement le devant de ses bottes. Au moins, jusque-là, il n'avait jamais eu froid aux pieds.
« Que t'arrive-t-il, Matt ? »
demanda-t-il en bougeant les épaules pour se désengourdir. Son paquetage et la cape de Tom transformée en baluchon ne pesaient pas très lourd, mais, à force de marcher sans manger ni se reposer vraiment, tout devenait un fardeau.
« Pourquoi tiens-tu tant à la vendre ?»
lâcha Matt, furieux.
« C'est moi qui l'ai trouvée, non ? Tu ne t'es jamais dit que j'aimerais la garder ? Pendant un temps, en tout cas ? S'il te faut de l'argent, pourquoi ne pas te débarrasser de cette fichue épée ?»
Rand passa la main sur la poignée ornée d'un héron de son arme.
Mon père m'a confié cette épée qui lui appartenait. Moi, je ne te suggérerais jamais de vendre un cadeau de ton père. Par le sang et les cendres, tu aimes crever de faim? Et de toute façon, si nous trouvions un acheteur, combien nous rapporterait l'épée? Aucun fermier n'en voudrait, tu le sais très bien. En revanche, le rubis seul nous rapporterait assez pour voyager en carrosse jusqu'à Kemlin. Et peut-être même jusqu'à Tarvalon. En mangeant et dormant chaque soir dans les meilleures auberges. Mais qui sait, tu aimes peut-être l'idée de traverser la moitié du monde à pied en dormant à la belle étoile.
Les deux amis se défièrent du regard un long moment, puis Matt haussa les épaules et baissa enfin les yeux.
À qui pourrais-je la vendre, Rand ? Un fermier nous paierait en volaille, et personne ne s'est jamais acheté un carrosse avec le contenu d'un poulailler. Et si j'avais montré la dague dans les villages que nous avons traversés, les gens auraient cru que c'était le butin d'un vol. La lumière seule sait comment ils auraient réagi.
Rand réfléchit une minute et acquiesça à contre-cœur.
Tu as raison, je dois l'avouer. Désolé, je n'aurais pas dû m'échauffer ainsi. Mais je meurs de faim. Et mes pieds me font un mal de chien.
Les miens aussi,
gémit Matt. Les deux amis repartirent d'un pas encore plus traînant.
Les miens aussi.
Comme pour le narguer, le vent se leva et lui envoya au visage un nuage de poussière aveuglant. Par bonheur, les fermes qu'ils rencontrèrent sur leur chemin permirent aux jeunes gens de manger de temps en temps et de dormir parfois au chaud. Car une meule de foin pouvait se révéler aussi agréable qu'une chambre munie d'une cheminée. et même quand elle n'était pas bâchée, elle faisait une excellente protection contre la pluie, si on s'y enfonçait suffisamment. En quelques occasions, Matt parvint à voler des œufs, et il réussit même un jour à traire une vache laissée seule dans un pâturage. Hélas, la plupart des fermiers avaient des chiens, et ces sales bêtes ouvraient l'œil et le bon. Selon Rand, courir un bon tiers de lieue avec des molosses aux fesses était un prix bien trop élevé pour 2 ou 3 œufs. Surtout lorsque la poursuite se terminait au pied d'un arbre, les fichus cabots attendant parfois des heures avant de s'en aller et de laisser les deux voleurs descendre de leur perchoir. De précieuses heures ainsi gaspillées, eh bien, c'était intolérable. Même si ça ne l'enthousiasmait pas, Rand préférait encore approcher en plein jour des fermes où ils espéraient trouver un peu de compassion. Assez souvent, on leur lâchait quand même les chiens après sans explication. Par les temps qui couraient, les étrangers étaient rarement accueillis à bras ouverts. Mais de temps en temps, en échange d'une heure passée à couper du bois ou à puiser de l'eau, on leur donnait un repas et un lit. Enfin, une paillasse dans un coin de la grange, ce qui faisait déjà beaucoup. Là aussi, perdre du temps à s'acquitter de corvée était intolérable. Parce que chaque minute perdue ne l'était pas pour tout le monde, bien entendu. Très souvent, Rand se demandait quelle distance un myrdral pouvait couvrir en une heure. Une question angoissante qui l'incitait à ne pas traîner, même s'il adorait se régaler d'une bonne assiette de soupe, préparée par une fermière ravie d'épargner du travail à son mari ou à ses fils. Quand il n'avait rien à se mettre sous la dent, les jeunes gens tentaient de se consoler en pensant qu'ils arriveraient plus vite à Kemlin. Mais lorsqu'on mourait de faim, les raisonnements de ce genre ne tenaient jamais bien longtemps la route. Alors, perdre du temps ou mourir d'inanition? Si Rand avait du mal à trancher, Matt s'inquiétait encore plus que lui, car il ne redoutait pas seulement d'éventuels poursuivants.
« Que savons-nous de ces gens ? »
demanda-t-il un après-midi, alors que les deux garçons nettoyaient l'étable d'une petite ferme.
« Au nom de la lumière, que savent-ils de nous ? »
répliqua Rand, avant d'éternuer un bon coup. Les deux amis travaillaient torse nu, respirant abondamment la poussière que soulevait leur fourche.
« La seule certitude, reprit Rand, c'est qu'ils nous régaleront d'agneau rôti et nous permettront de dormir dans un vrai lit. »
Matt enfonça sa fourche dans le mélange de paille et de fumier qui couvrait le sol, puis il jeta un regard soupçonneux au fermier qui revenait du fond de l'étable, un seau dans une main et son tabouret de traite dans l'autre. Lorsqu'il vit que le jeune homme le regardait, le petit homme voûté à la peau tannée et aux fins cheveux gris ralentit le pas. Puis il détourna les yeux et sortit en trombe de l'étable, renversant du lait dans sa hâte de ficher le camp.
« Il mijote un sale coup, j'en suis sûr, »
souffla Matt.
« T'as vu comment il a fui mon regard ? Pourquoi ces gens sont-ils si gentils avec deux vagabonds qu'ils n'ont jamais vu de leur vie ? Tu peux répondre à ça ? La femme a dit que nous lui rappelions ses petits-enfants. Vas-tu cesser de t'inquiéter au sujet de nos hôtes ? Ce sont nos poursuivants qui devraient t'angoisser.
« Il mijote un sale coup, »
répéta Matt, entêté. Leur travail terminé, les deux amis se lavèrent avec l'eau de l'abreuvoir, juste devant l'étable. Alors que le soleil couchant allongeait démesurément leurs ombres, ils gagnèrent la ferme, Rand finissant de se sécher avec sa chemise. Appuyé à sa canne, une massue plutôt, avec une nonchalance un peu trop étudiée, le fermier les attendait à la porte de sa demeure. Derrière lui, sa femme tirait nerveusement sur son tablier en se mordillant la lèvre inférieure. Rand soupira d'accablement. À l'évidence, Matt et lui ne leur rappelaient plus du tout leur petit-fils.
« Nos fils viennent nous voir ce soir, »
dit le vieil homme.
« Navré, mais j'avais oublié. 4 solides gaillards dans la fleur de l'âge. Ils seront là d'une minute à l'autre. Alors, pour les lits, ce ne sera pas possible. »
La fermière tendit à Rand un petit paquet emballé dans une nappe.
« Du pain, du fromage, des cornichons et un peu d'agneau. Assez pour 2 repas, peut-être. »
« Prenez ça et partez, » semblaient dire les yeux cernés de rides de la vieille dame. Rand s'empara du paquet.
« Merci. Je comprends. Matt, on s'en va.
Tout en enfilant sa chemise, Matt suivit son ami en maugréant. Avant de s'arrêter pour dîner, Rand préférait mettre autant de distance que possible entre la ferme et eux. Comme presque tout le monde dans la région, le vieux type avait un chien. L'affaire aurait pu plus mal finir. 3 jours plus tôt, on leur avait lâché les molosses après, alors qu'ils travaillaient encore. Les chiens, le fermier et ses 2 fils armés de massues les avaient poursuivis sur un bon quart de lieue avant de renoncer. Au moment de détaler, les 2 garçons avaient à peine eu le temps de prendre leurs affaires. Et le fermier, lui, brandissait un arc où était encochée une flèche à pointe barbelée.
« Ne revenez jamais !»
avait-il crié.
« J'ignore ce que vous avez en tête, mais je ne veux pas revoir vos yeux sournois !»
Matt avait saisi son arc et fait mine de se retourner.
« Tu perds la tête ?»
lui avait lancé Rand, le tirant par le bras. Depuis, le jeune berger de Chandemon se demandait si s'arrêter dans des fermes en valait la peine. Chaque jour, Matt se méfiait un peu plus des gens qu'il ne connaissait pas, et il était de moins en moins capable de le cacher, en supposant qu'il essaie encore. Pour le même volume de travail, les repas devenaient de plus en plus frugaux et très souvent, on ne leur proposait même pas de dormir dans l'étable. À la ferme des Greenwell, Rand trouva enfin la solution à tous leurs problèmes. Ou du moins, il en eut l'impression. Maître Greenwell et sa femme avaient 9 enfants, l'aîné ayant à peine 1 an de moins que les 2 voyageurs. Solidement bâti lui-même et disposant de plusieurs assistants, le fermier n'avait sûrement pas besoin d'aide. Pourtant, il étudia les 2 jeunes gens un long moment, fronçant les sourcils devant leurs habits tout crottés, et se demanda à voix haute quel travail il pourrait bien leur confier. S'il devait s'asseoir à sa table, dit alors sa femme, pas question que les 2 garçons portent des frusques crasseuses. C'était justement jour de lessive, et pendant qu'ils travailleraient, de vieilles affaires de son mari leur suffiraient amplement. Devant le sourire de la fermière, Rand pensa à maîtresse Alvéré. Même si la paysanne était blonde, une couleur de cheveux qu'il voyait pour la première fois. Matt lui-même fut rassuré par la gentillesse de maîtresse Greenwell. Quant à la fille aînée, eh bien, elle l'incita à baisser davantage encore sa garde. Belle brune aux yeux noirs, Else souriait aux 2 garçons dès que ses parents avaient le dos tourné. Alors qu'ils travaillaient dans l'étable, déplaçant des tonneaux et des sacs de grains, elle se percha sur la porte d'une stalle et les regarda en fredonnant et en mâchouillant un bout de sa très longue natte. Rand semblait l'intéresser tout particulièrement. Tentant d'abord d'ignorer le regard insistant d'Else, il finit par enfiler la chemise prêtée par Maître Greenwell. Le serrant aux épaules et trop courte pour entrer dans son pantalon, la liquette était quand même mieux que rien. Tandis qu'il s'habillait, Else éclata de rire. Cette fois, s'il se faisait courser, ce ne serait peut-être pas à cause de Matt.
Perrine saurait s'y prendre, pensa Rand. Il lancerait quelques blagues, et la fille serait pliée de rire au lieu d'essayer d'allumer de malheureux voyageurs.
Hélas, aucune remarque désinvolte ni aucune plaisanterie bien sentie ne vint à l'esprit de Rand. Et chaque fois qu'il regardait Else, elle lui adressait un sourire sans ambiguïté. Exactement le genre qui inciterait son père à lâcher les chiens, s'il s'en apercevait. Incidemment, elle fit savoir à Rand qu'elle aimait les hommes de grande taille. Dans le coin, tous les garçons étaient courts sur pattes, il aurait fallu être aveugle pour ne pas le remarquer. Tandis que Matt ricanait bêtement, Rand essaya de se concentrer sur la fourche qu'il maniait depuis peu. Les plus jeunes enfants, par bonheur, faisaient une agréable diversion. Dès qu'il était entouré de gamins, Matt devenait moins méfiant, et c'était déjà ça de gagné. Après le dîner, tout le monde s'installa devant la cheminée. Alors que Maître Greenwell, assis dans son fauteuil préféré, bourrait soigneusement sa pipe, sa femme s'affairant à repriser les chemises qu'elle avait lavées dans l'après-midi, Matt sortit les balles de couleur du trou vert et se mit à jongler. Il ne donnait jamais de représentation quand il n'y avait pas d'enfant. Les petits Greenwell rirent aux éclats lorsqu'il fit semblant de laisser tomber les balles, les récupérant à la dernière seconde, et ils applaudirent à tout rompre les diverses figures qu'exécuta Matt, dont un cercle à 6 balles qu'il faillit réellement rater. Ce semi-échec ne lui valut pas de critique, Maître Greenwell et sa femme applaudissant avec autant d'enthousiasme que leurs enfants. Quand Matt eut terminé, alors qu'il multipliait les révérences avec une grâce théâtrale que Tom n'aurait pas reniée, Rand sortit la flûte du trou vert de son étui. Saisir l'instrument lui serrait toujours un peu le cœur, comme s'il réveillait ainsi tous ses souvenirs du pauvre Tom Merrilyn. Sauf pour s'assurer qu'elle était toujours en bon état, il ne sortait jamais la harpe, un instrument, selon le trou vert, bien trop délicat pour les grosses pognes maladroites d'un paysan. En revanche, chaque fois qu'un fermier les gardait à dîner, il jouait de la flûte à la fin du repas. Un petit bonus offert à son hôte et une façon d'entretenir la flamme du souvenir. Un hommage que le trouvère défunt avait largement mérité. La jonglerie de Matt ayant déridé le public, Rand opta pour 3 filles dans la prairie. Les 2 époux tapèrent dans leurs mains pour l'accompagner et les 2 plus jeunes enfants dansèrent devant le feu. Même le plus petit garçon, qui tenait à peine debout, réussit à gambiller en rythme. Lors du concours de Beltine, Rand n'aurait sûrement pas gagné un prix, et il le savait. Mais grâce aux leçons de Tom, il n'aurait pas été gêné de participer. Else était assise en tailleur devant la cheminée. Dès qu'il eut fini de jouer, elle se tourna vers Rand et souffla.
« Tu joues merveilleusement bien. Je n'ai jamais rien entendu de si beau. »
Maîtresse Greenwell cessa soudain de repriser, regarda sa fille, puis étudia longuement Rand. Gêné par cet examen, le jeune homme laissa tomber l'étui de la flûte, car il avait décidé de ranger l'instrument. Si la fermière l'accusait de vouloir séduire sa fille... Conscient que la situation se dégradait, il remit l'instrument à ses lèvres et joua un autre morceau. Puis un autre. Et encore un autre. Alors que maîtresse Greenwell ne le quittait pas des yeux, il interpréta « Le vent qui fait trembler les saules »,« Revenir à la brèche de Tarwin », »,« Le coq de maîtresse Aynora » et « Le vieil ours noir ». Presque tout son répertoire y passa, en vain, car maîtresse Greenwell ne détourna plus les yeux de lui. Sans dire un mot, elle semblait l'évaluer, comme s'il était un dangereux prédateur. Très tard dans la soirée, maître Greenwell se leva, sourit d'aise et se frotta les mains avec ravissement.
Eh bien, ce fut un grand moment. Mais nous devrions être couchés depuis longtemps. Les joyeux vagabonds n'ont pas d'horaire, mais dans une ferme, on doit se lever avec le soleil. Jeunes gens, sachez que j'ai payé cher dans certaines auberges pour des représentations qui ne valaient pas la vôtre.
Mon époux, il mérite une récompense.
Dit maîtresse Greenwell en soulevant de terre son dernier nez, qui dormait depuis un bon moment devant le feu.
L'étable n'est pas un endroit agréable pour dormir. Qu'il prenne la chambre d'Else, et elle dormira avec moi.
La jeune fille fit la grimace. Bien qu'elle eût pris la précaution de garder la tête baissée, Rand s'en aperçut, et il aurait juré que ça n'avait pas échappé à sa mère.
Oui,
approuva maître Greenwell.
« C'est bien mieux que l'étable. Si partager un lit ne vous dérange pas, bien sûr. »
Sous le regard de la fermière, Rand sentit qu'il s'empourprait.
« J'aimerais bien t'entendre jouer encore, mon garçon, »
ajouta le fermier.
« Et voir ton ami jongler. Demain, vous pourriez nous aider à... »«
Ils devront partir très tôt, mon époux, »
intervint maîtresse Greenwell.
Ariane est le prochain village sur leur chemin, et s'ils veulent tenter leur chance à l'auberge, il ne faudra pas qu'ils l'embinent.
C'est bien vrai, maîtresse,
acquiesça Rand.
Et merci beaucoup.
La fermière eut un sourire pincé, comme si elle savait très bien qu'il ne la remerciait pas seulement de son conseil, son délicieux dîner et son hospitalité. Le lendemain, Matt taquina Rand toute la journée au sujet d'Else. Avide de parler d'autre chose, le jeune berger repensa à la suggestion indirecte des époux Greenwell. Essayer de jouer dans des auberges pour se gagner le gîte et le couvert. Au moment du départ, Alors qu'elle se semblait toute dépitée, contrairement à sa mère qui ne cachait pas son intense soulagement, il s'agissait simplement d'une diversion destinée à arriver le clapet de Matt. Mais lorsqu'ils arrivèrent à Arienne, l'idée avait fait son chemin. Alors que le soir tombait, ils entrèrent dans l'unique auberge du village, et Rand alla parler au patron. Pour le convaincre, il joua un bac sur la rivière, « Cher Sarah » pour l'aubergiste rondouillard, et un extrait de « La route de Dunaren ». Matt jongla un peu, achevant de persuader leur interlocuteur. Ce soir-là, ils se régalèrent d'un bon steak et de pommes de terre sautées, puis dormirent dans un lit bien chaud. Située sous les combles, la chambre était la plus petite de l'établissement, et ils avaient dû attendre pour manger le milieu d'une très longue soirée passée à jouer et à jongler, mais le jeu en valait largement la chandelle. De plus, les deux voyageurs n'avaient pas gaspillé une seule heure de jour, accentuant peut-être leur avance sur quiconque les poursuivait. Cerise sur le gâteau, les clients de l'auberge ne s'étonnèrent pas que Matt leur jette de fréquents regards soupçonneux. Certains se dévisagèrent même avec quelque méfiance. En s'étant troublé, se défier des étrangers n'avait rien d'extraordinaire. Et une auberge en accueillait toujours un certain nombre. Même s'il dut subir la logorée nocturne de Matt, Rand passa sa meilleure nuit depuis qu'ils avaient quitté Pont-Blanc. Le matin, l'aubergiste leur proposa de rester un ou deux jours de plus. Devant leur refus, il demanda à un fermier de leur faire un bout de conduite. Trop ivre pour rentrer chez lui la veille, le brave Éasile Fornay les installa à l'arrière de sa charrette et leur fit économiser une bonne lieue de marche. Cette façon de voyager devint une agréable routine. Avec un peu de chance, et l'aide d'un fermier compatissant et de son chariot, les deux amis parvenaient presque toujours à atteindre un village avant la nuit. Et quand il y avait plus d'une auberge dans l'agglomération, les tenanciers finissaient par mettre leurs services aux enchères, une fois qu'ils les avaient vus à l'œuvre. S'ils étaient encore loin du niveau d'un vrai trouvère, les deux garçons valaient bien mieux que les amateurs maladroits qui se produisaient de temps en temps dans ces coins reculés. Grâce à la concurrence, ils obtenaient une meilleure chambre, très souvent avec deux lits, et des portions de nourriture bien plus généreuses. Le matin, il y avait toujours un fermier affligé d'une gueule de bois pour leur faire un brin de conduite. Voir un marchand suffisamment séduit par leurs prestations pour leur offrir une place gratuite dans un de ses chariots. Rand commença à penser qu'ils avaient réglé tous leurs problèmes, du moins jusqu'à ce qu'ils atteignent Kemlin. Mais ils arrivèrent un soir à Quatre Rois.